Vous écoutez France Culture.
Anne Lorchois a signé le journal et sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information. C'est un enjeu économique, social et écologique déterminant pour notre avenir. Ségolène Royal a donc présenté cette semaine son projet de loi sur la transition énergétique et elle remettra le couvert sur le sujet après-demain lundi en pilotant avec Michel Sapin une conférence bancaire visant à financer la dite transition. Au cœur du dispositif, l'essor des énergies renouvelables et la baisse du nucléaire dans notre production d'électricité et la réduction de 50% de notre consommation énergétique globale d'ici à 2050. Sur le projet de loi en particulier, comme sur le sujet de la facture énergétique en général, les avis de la presse sont souvent variés, hétérogènes, comme s'il était impossible d'aborder ce sujet de façon neutre et technique. Les médias peuvent-ils échapper aux positions politiques et idéologiques sur la transition énergétique? C'est la question que nous posons ce matin. Avec nous, Béatrice Mathieu, rédactrice en chef adjointe à l'Expansion, Anne-Laure Barral, journaliste spécialisée environnement à France Info, et Claude-Marie Vadreau, journaliste environnement spécialisée également à Politis. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bien sûr, les regards extérieurs. Ce matin, la directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, Isabelle Véramasson. Bonjour.
Bonjour.
Et l'homme des images et du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour.
Bonjour.
Avec au poste de pilotage ce matin, Clément Daté, Mathias Mégy et Vincent Abouchard. Et avec vous, comme toujours, pour tous les commentaires sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux, c'est le secret des sources sur France Culture.
Le journal de 20h, David Pujadas.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, travaux d'isolation obligatoires, prime à la casse pour passer du diesel à l'électrique. Ségolène Royal dévoile sa loi sur la transition énergétique, mais reste floue sur les sujets les plus sensibles. Un peu moins de grévistes.
L'ouverture du Journal de France 2 mercredi soir, la transition énergétique est bien le seul sujet cette semaine qui a réussi à se glisser en une malgré le football et la grève à la SNCF. Parmi les objectifs affichés par la ministre de l'écologie et de l'énergie, la réduction de la part du nucléaire à 50% dans notre consommation d'électricité d'ici 2015, à l'inverse la hausse de la part des énergies renouvelables de 15 à 32% d'ici 2030, j'ai dit 2015, c'est 2025, hein, pardon, pour la réduction de la part du nucléaire, donc à l'inverse la hausse de la part des énergies renouvelables de 15 à 32% d'ici 2030, et aussi une série de mesures sur la rénovation thermique des bâtiments et le développement du parc de véhicules électriques. Rappelons aussi que la facture énergétique de la France s'élève à 70 milliards d'euros. Ce plan a fait l'objet de commentaires assez variés dans la presse. Flou, on l'entendait, disait France 2 à l'instant. Loi minima, titrait le Figaro, tandis que Libération parlait de changement d'air et ou alternatives économiques de réformes ambitieuses. Est-ce à dire, Béatrice Mathieu, Anne-Laure Barral, Claude-Marie Vadreau, qu'il est difficile, voire impossible, de porter un jugement neutre sur ce projet de loi comme sur l'ensemble du sujet, comme si les positionnements politiques ou idéologiques dictaient les verdicts de la presse sur le sujet? Claude-Marie Vadreau, Béatrice
Mathieu. Écoutez, ce n'est pas facile parce que je ne pense pas qu'il existe des journalistes qui soient débarrassés, c'est heureux, de toute pensée idéologique ou écologique. Alors, on peut s'efforcer d'être honnête, mais de ne pas prétendre à l'objectivité. Effectivement, je ne pense pas que l'Expansion ou d'autres journaux et Politis ou Libération regardent la loi avec le même œil, même s'ils y relèvent les mêmes chiffres, si tant est qu'il y ait beaucoup de chiffres dans cette loi d'ailleurs.
Oui, il y a peu de chiffres en fait dans la loi, hein, mais il y a des débats sur les chiffres, en revanche on va y venir tout à l'heure. C'est une question de choix, encore une fois, idéologique au sens noble du terme d'ailleurs, ou c'est une question de quel est le point de repère qu'on prend, Béatrice Mathieu, l'Expansion justement.
Alors pour l'Expansion, c'est pas du tout une question de choix idéologique. Nous, magazine économique, on cherche effectivement toujours à traiter le sujet de la transition, mais comme tous les autres, hein, à travers ce prisme économique. Et c'est vrai que sur le sujet de la transition énergétique et la question centrale du nucléaire, le flou sur les coûts de production à venir et actuels et à venir de l'électricité nucléaire sont au cœur du sujet et expliquent beaucoup de choses. Et ça, c'est très compliqué à connaître.
Je n'oppose pas les énergies les unes aux autres. On fait les choses sereinement, en maîtrisant les enjeux et à l'abri de tout combat idéologique ou dogmatique.
Ah, pas d'idéologie, pas de dogmatisme, sous-entendu pas de sectarisme, dit Ségolène Royal. Alors je repose un peu la question, je la pose à vous, à votre tour, Anne-Laure Barral de France Info. Est-ce que la ministre de l'écologie est pas un peu en avance sur la presse, encore une fois? Est-ce qu'elle n'est pas moins sectaire qu'une partie de la presse qui prend des positionnements idéologiques sur ces sujets? On voit que sur le nucléaire, par exemple, il y a des positions très tranchées qui sont quand même animées par un peu le pour ou le contre.
Bah, après, c'est une question d'idéologie du titre de presse peut-être pour lequel on travaille, ou d'angle, moi j'ai envie de dire, d'angle qu'on décide de faire sur le sujet. Est-ce qu'on parle d'un angle purement économique sur le nucléaire? Est-ce qu'on parle d'un angle climatique sur les questions énergétiques? Est-ce qu'on parle d'un angle de pouvoir d'achat pour les Français? Donc, je trouve que c'est intéressant de traiter ces sujets parce que justement, ils sont multiples. Après, quand on fait le sujet, quand on fait un papier, que ce soit sur une radio ou que ce soit dans un journal, on choisit un angle. Donc, c'est là où peut-être on rentre dans l'idéologie, la ligne éditoriale aussi, on peut appeler ça du titre ou de sa radio.
En même temps, on a senti, et on en reparlera tout à l'heure avec Isabelle Verramasson, on a senti, une tonalité dominante plutôt positive sur le projet de loi présenté par Ségolène Royal. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une forme de lassitude par rapport à des positionnements plus tranchés, Claude-Marie Vadrault, sur le sujet?
J'ignore si c'est une lassitude, mais c'est peut-être parce que a priori, on a l'impression, et vous venez de le confirmer, qu'on peut faire relativement confiance à cette ministre de l'écologie par rapport à tous ceux qui se sont succédés avant elle. Il y a un a priori favorable. Donc on ne va pas la critiquer sur le fond, mais on se dit que peut-être que ça va marcher, effectivement, qu'elle va réussir à imposer un changement et une transition, quels que soient les chiffres.
Le changement, c'est quand même que pour la première fois, on parle de réduire une part du nucléaire dans notre mix électrique. Ça n'a jamais été envisagé avant. Donc ça, pour un journaliste, c'est intéressant quand même de suivre cette évolution historique du modèle énergétique français, électrique français.
Alors je voudrais qu'on s'arrête sur les chiffres et les coûts, COUTS, parce qu'évidemment c'est une question clé sur ces sujets-là. Et si on veut espérer livrer, sinon un jugement neutre, du moins un jugement honnête, pour reprendre votre adjectif Claude-Marie Vadrault, il faut pouvoir quand même s'entendre un minimum sur les chiffres, sur le coût des différentes filières par exemple, ou sur le coût du démantèlement du nucléaire. Et justement sur le sujet, on entend beaucoup de choses comme s'il n'existait pas réellement de chiffres qui fassent consensus. Alors on va prendre deux petits sonores assez courts qui sont pas tout à fait sur le même sujet, mais qui donnent quand même une idée de la tonalité. On va écouter d'abord le député Europe Écologie Les Verts, Denis Baupin, évoquant les récents rapports du Parlement et de la Cour des comptes sur le coût donc du nucléaire.
Dans ce rapport, la Cour des comptes indique que le coût de fonctionnement du nucléaire a augmenté de 20% en 3 ans, ce qui est très significatif. Et donc, on se retrouve dans une situation où progressivement, les coûts du nucléaire augmentent quand les coûts des énergies renouvelables, qui sont la principale alternative au nucléaire, sont en train de baisser. Donc c'est un élément d'éclairage par rapport aux choix qu'il y aura à faire sur la transition énergétique. On a aussi constaté qu'un certain nombre de coûts aujourd'hui apparaissent comme probablement sous-évalués. Les coûts de démantèlement des installations nucléaires, sur lesquels la Cour des comptes s'interroge sur le fait que les travaux sont toujours plus chers que les devis initiaux. Le coût de l'EPR qui a beaucoup augmenté. Le coût de la gestion des déchets. Et évidemment, le coût en cas d'accident nucléaire et donc la question de l'assurance qui n'est pas prise en charge aujourd'hui par EDF mais qui est prise en charge par l'État.
Écoutons ensuite un homme régulièrement présenté dans les médias comme un expert de la filière nucléaire, c'est Francis Sorin.
Pour la même capacité énergétique, ce coût de l'uranium est très nettement inférieur à celui des autres matières premières productrices d'énergie. Par exemple, pour alimenter pendant un an les 58 réacteurs de notre parc nucléaire, la quantité totale d'uranium naturel nécessaire coûte à peu près 800 millions d'euros. Par comparaison, pour un même potentiel de production d'électricité, la quantité de gaz à acheter sur une année reviendrait à environ 20 milliards d'euros. 800 millions d'un côté, 20 milliards de l'autre, c'est cette différence énorme dans le prix d'achat de la matière première qui explique la compétitivité du nucléaire par rapport aux autres sources d'énergie.
Ce sont deux exemples, mais on pourrait les multiplier. Certes, ils ne parlent pas tout à fait de la même chose, on est bien d'accord, mais sauf que si on est auditeur, dans un cas, on en sort en se disant « Ah, le nucléaire, c'est le tonneau des Danaïdes », et puis dans l'autre cas, on se dit « Ah, le nucléaire, c'est un placement de bon père de famille ». Donc, est-ce que, je vous pose la question à tous les trois, Béatrice Mathieu, Claude-Marie Vadrois, Anne-Laure Barral, est-ce que le journaliste peut accéder à des documents qui livrent un verdict financier accepté et acceptable par tous ?
Non, nous n'avons aucune possibilité de vérifier sérieusement ces chiffres, qu'ils soient effarants ou négligeables, aucune possibilité. Vous parliez de démantèlement, le coût du démantèlement. En 1985, on a arrêté une centrale en Bretagne, minuscule, 80 mégawatts, rien Brennilis. Du tout. Brennilis, oui. On ne sait toujours pas combien ce démantèlement, qui est toujours en cours, aura coûté. Les chiffres sont tout à fait fantaisistes.
Et là, dans le rapport parlementaire, les estimations ont du simple au double, hein, sauf erreur de ma part, c'est entre 14 et 30 milliards, c'est ça, pour le démantèlement.
Oui, parce que qui fournit les chiffres ? EDF ? Et alors, est-ce qu'on peut faire confiance à EDF pour fournir les bons chiffres ? Je crois qu'on vit, dans l'affaire du nucléaire notamment, mais dans d'autres domaines aussi, sous la dictature des chiffres. On ne nous balance que des chiffres. On nous offre des chiffres que nous sommes incapables de vérifier sérieusement.
Béatrice Mathieu.
C'est tout à fait vrai. Effectivement, dans la mesure où seuls les opérateurs, c'est-à-dire EDF, le CEA et Areva, connaissent exactement le coût de fonctionnement de leurs installations. On est, nous, journalistes, et la Cour des comptes d'ailleurs aussi, puisque quand elle a fait son premier rapport il y a 2 ans et le dernier qui est sorti il y a 2 mois, totalement sous la pression de ces opérateurs qui donnent ces chiffres-là. Donc il y a une grande difficulté à les vérifier.
Est-ce que ça veut dire qu'entre les lignes, on peut lire dans les rapports de la Cour des comptes une sorte d'aveu d'impuissance aussi par rapport à ça ?
Ils l'écrivent d'ailleurs qu'ils n'ont pas réussi à obtenir vraiment clairement les choses. Mais en même temps, je ne veux pas défendre non plus spécialement les opérateurs, mais le démantèlement d'une centrale de façon définitive, le retour à l'herbe, comme ils l'appellent, ça n'a jamais été vraiment fait. Donc comment le chiffrer, hein, quand on prévoit des travaux rien que sur une maison, je crois qu'entre le devis initial et ce qu'on paye à la fin, il y a des différences. Donc là, vous imaginez bien ce que ça peut donner. Et puis il y a la gestion des déchets. C'est aussi le projet de Cigéo à Bure, où on prévoit d'enfouir à plus de 500 mètres sous terre nos déchets radioactifs les plus dangereux. Ça n'a jamais été fait non plus. Donc comment savoir quel coût aura une telle installation et quel impact ça peut avoir sur les résultats des opérateurs après derrière ?
Ça veut dire que ça vaut aussi pour l'ensemble du dispositif transition énergétique. On parle de centaines de milliards, 500 milliards, disent certaines personnes, mais on est au doigt mouillé, il y a une base solide.
Je crains malheureusement qu'on soit au doigt mouillé. D'ailleurs, si vous regardez ces deux rapports de la Cour des comptes à 2 ans de distance, les chiffres donnés ne sont pas les mêmes. Alors, je veux bien que l'on puisse difficilement évaluer le coût d'un démantèlement à venir. Mais même pour la centrale de Brennilis, que je citais il y a quelques instants, on ne sait pas combien, depuis 1985, c'est-à-dire depuis 30 ans pratiquement, le démantèlement en cours a coûté. On ne peut pas l'avoir le chiffre.
Alors on a un autre exemple, vous parliez de Brennilis, il y a un autre exemple de démantèlement qui est celui de Siloé à Grenoble, qui était un réacteur expérimental donc du CEA. Et là, le CEA a bien voulu dire qu'entre la facture initiale qui était de 200 millions et la facture finale, il y a un écart de 50 millions. Ce qui donne l'idée, et c'était un tout petit réacteur expérimental, ce qui donne l'idée de l'écart qu'il peut y avoir au final sur le démantèlement futur de nos 58 réacteurs. Et d'ailleurs, le précédent rapport de la Cour des comptes était très intéressant sur la question du démantèlement, puisqu'il regardait les estimations qui étaient faites en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Alors on est d'accord, alors EDF va dire oui, mais ce ne sont pas les mêmes réacteurs, ce n'est pas la même chose, etc. Mais en prenant ces estimations, en prenant leur mode de calcul et en les appliquant au cas français, la facture serait entre 2 et 3,5 supérieure à ce que EDF, Areva et le CEA estime aujourd'hui.
Mais donc, encore une fois, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre sur les chiffres, il faut avoir des chiffres fiables, on retombe sur cette problématique où on est tenté d'être dans des interprétations plus politiques ou idéologiques. Ça conduit mécaniquement un peu à ça.
On est dans la fuite en avant et le déni. On est dans les deux. La fuite en avant et le déni.
Je crois que si nous commentons uniquement les chiffres, qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou du nucléaire, on abuse nos lecteurs ou nos auditeurs, puisqu'on n'en sait rien finalement. Donc, il y a un abus de pouvoir de la presse de tirer des conclusions sur le nucléaire ou sur les énergies renouvelables en ne nous basant que sur des chiffres. Donc, il faut prendre les deux autres piliers que vous évoquiez, c'est-à-dire les conséquences sociales et les conséquences écologiques, et ne pas raisonner à partir des chiffres tant que l'État ou les organismes d'État ne se décideront pas, s'ils en ont la possibilité, à nous donner des chiffres fiables.
On évoque souvent sur ce sujet, comme on a recours souvent sur ce sujet comme sur d'autres, et on l'évoque souvent dans cette émission, aux experts, entre guillemets. Est-ce que sur ces types de sujets, il existe justement des experts, on va dire, indépendants, qui ne soient liés ni à un bord, ni à l'autre, etc. Oui,
Non, pour moi, il y a
unanimité.
Il n'y en a pas.
Donc quand on présente quelqu'un comme un expert, en réalité, il est forcément orienté, où il a un point de vue qui est lié.
Il a un point de vue, il a une origine, il a un passé. Il peut peut-être aujourd'hui parler des énergies renouvelables, mais il aura passé auparavant 15 ans au CEA ou à EDF. Donc, c'est pas possible.
En même temps, moi, je trouve que ça rend le travail de journaliste encore plus intéressant, parce qu'on sait à quels experts on a affaire, quelles sont leurs paroisses. Et justement, c'est à nous de faire bien attention à ce qu'on dit et à ce qu'on écrit par rapport aux infos qu'ils nous donnent.
Quand sur la question du démantèlement, quand Global Chance ou Wise, qui sont deux cabinets qui ont fait des estimations
qu'on entend régulièrement, y compris sur France Culture,
sur le démantèlement avec des sommes annoncées astronomiques et bien supérieures à ce que annonce EDF, c'est difficile pour nous journalistes de dire qui a raison, comment, qui croire. En même temps, on sait très bien que Global Chance et Wise sont des anti-nucléaires. Donc bon.
Mais je dirais pareil sur Équilibre Énergie, qui sont liés à Jean Bergougnou, ancien directeur général d'EDF. Il y a Sauvons le Climat aussi. Voilà, il y a à chaque fois des acteurs. Alors, il faut bien faire attention parce que le titre de leur association, s'il est présenté juste comme ça, il peut porter à confusion auprès des auditeurs qui ne voient pas forcément la paroisse derrière.
Alors, attardons-nous donc justement sur quand même cet interlocuteur central dans ce dossier, qu'est EDF.
On est sur le haut du dôme, sur le haut de l'enceinte de l'EPR de Flamanville 3.
Il aura fallu 10 minutes et une vingtaine d'escaliers de chantier pour monter à 60 mètres de hauteur et atteindre le sommet du dôme.
Le dôme, c'est quand même l'endroit symbolique, la vigie du chantier. Donc on a un chantier en 2014 qui tourne bien. Il faut franchir les étapes une à une, on est concentré sur 2014. Et puis ensuite viendra 2015 avec surtout beaucoup d'essais. Et on va être au rendez-vous de 2016, avec des essais d'ensemble, la mise en service.
Aujourd'hui, voilà, extrait d'une vidéo des services de communication d'EDF sur ce fameux EPR de Flamanville au coût sans cesse revu à la hausse. Document vidéo dans lequel on entend notamment le directeur du chantier, Antoine Ménager. Ce que vous nous dites, c'est que l'entreprise EDF ne donne pas des informations fiables sur le sujet ou qu'il ne se livre qu'à du lobbying opaque? C'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Absolument. Oui ou non? Dans les années 80, moi j'étais interdit de visite de séjour. On barrait mon nom à chaque fois que je participais à une visite pour les élus. Alors il paraît que ça a évolué, qu'on est arrivé à la transparence. Et il y a 4 ans, j'ai préparé pour Arte un film romanesque sur un accident nucléaire. J'ai mis 6 mois avoir l'autorisation de visiter pendant 20 minutes la centrale de Dampierre-en-Burly. 6 mois, il a fallu que je pleure pour avoir une autorisation et j'ai obtenu de rester 2 minutes 30 dans la salle de commande des réacteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence. J'avais à me souvenir d'une salle de commande pour pouvoir conseiller les décorateurs pour faire ça. Eh bien, j'ai eu droit à 2 minutes 30 et on a vérifié 3 fois que je n'avais pas un appareil photo.
Concrètement, Béatrice Mathieu, Anne-Laure Barral, ça veut dire que si on appelle EDF, on a juste un conseiller en communication qui vous donne
si on peut parler au patron,
si
vous dites
on peut avoir
que
des
vous
choses
voulez
un peu plus
visiter
sérieuses,
le chantier
etc.
de Flamanville, on vous fait visiter le chantier de Flamanville.
Ah, le chantier, ça va, oui, mais les centrales qui fonctionnent.
Ils vont vous dire c'est fabuleux, c'est extraordinaire.
Enfin, moi, je trouve que quand même, par rapport aux années 70, la transparence a un peu progressé sur le nucléaire avec la loi 2006, avec les commissions locales d'information. Mais après, on a aussi noyé ça dans un. un flot d'informations techniques, scientifiques, avec beaucoup de chiffres, pour un peu perdre peut-être le citoyen. Mais il y a des associations qui se sont mises au boulot, il y a des journalistes qui se sont mis au boulot. Moi, je trouve qu'une grosse partie de mon travail, c'est quand même de lire des rapports, des comptes rendus, de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'IRSN. Enfin, il y a des pays, au Japon, par exemple, il n'y a pas d'IRSN, il n'y a pas d'institut de recherche sur la sûreté nucléaire, côté scientifique. L'autorité de sûreté nucléaire, elle était dépendante du ministère de l'Industrie avant Fukushima. Maintenant, elle est dépendante du ministère de l'Environnement. EDF, c'est une grande entreprise avec 150 000 salariés. Ça fait autant de sources d'informations possibles. Hein,
j'allais vous poser la question. Est-ce que le salarié parle à EDF, syndicat,
syndiqué ou pas? Si les syndicats, ils ne parlent pas. Enfin, c'est de ma propre expérience. Mais vous citiez...
Ça dépend des moments. Hein. La CGT, elle veut bien militer pour les sous-traitants avant l'accident nucléaire. Après, elle se fait un petit peu plus discrète. Mais ça reste son cheval de bataille, par exemple, de titulariser tous ceux qui travaillent dans le nucléaire.
Vous évoquiez l'IRSN, qui était l'ancienne IPSN. Eux ont fait des progrès. Mais EDF n'a pas fait de progrès. Ou tout au moins, elle nous distribue tellement de chiffres. Et c'est ça le problème de la transparence qui finit par un plafond de verre. On nous abreuve de chiffres. Il y en a partout. Il y a plein de chiffres qui sont accessibles.
Y compris parfois avec des référents différents. Par exemple, la confusion assez classique entre la consommation d'électricité et la consommation d'énergie, par exemple, qui n'a rien à voir, en fait. Hein, puisque donc, dans le deuxième cas, on parle aussi du pétrole, des voitures et tout ça.
Des chiffres n'étaient pas disponibles il y a 20 ans ou 30 ans. J'en ai la mémoire précise. Ils le sont maintenant. Mais il faut compter avec... l'esprit des rédacteurs en chef, pardonnez-moi, lorsqu'on pouvait se procurer quelques chiffres il y a 25 ou 30 ans, ils étaient assimilés à des scoops, à une révélation. Maintenant, les chiffres sont disponibles pour tout le monde et n'intéressent plus personne. Et c'est vrai dans tous les domaines environnementaux. C'est par hasard qu'on a constaté il y a 4 ou 5 ans, par exemple, qu'une installation d'incinération dans le Loiret produisait beaucoup de dioxyde. C'est quelqu'un qui a regardé par hasard sur un site.
En fait, c'était trouvable, quoi. C'était à disposition, il suffisait juste d'en regarder.
Voilà. Il y a tellement de chiffres offerts que... eh bien, on finit par s'y perdre et le citoyen, de toute façon, n'y a pas accès, il ne peut pas comprendre. Et on est là pour raconter aussi une histoire, pas seulement des chiffres, en tant que journaliste.
Béatrice Mathieu.
Alors justement, une histoire sur la question de la transparence. Une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a travaillé pendant des mois sur les coûts et les coûts cachés du nucléaire. Il y a eu une réunion très intéressante qui a eu lieu il y a 2 mois, ça devait être début avril. C'était les numéros 2 d'Areva, le directeur financier d'EDF, le directeur du CEA qui était interrogé par ces députés. Vous savez combien de journalistes il y avait dans la salle?
Vous y étiez?
J'y étais. Il y en avait 2. Il y avait 2 journalistes.
Après, on peut retrouver les auditions en ligne sur le site de la commission. Non, moi, je me les suis toutes visionnées et je n'étais pas dans la salle.
Bien sûr, mais quand on parle d'appétence aussi des journalistes pour être là à ce moment-là, il y a des choses qui se passent même dans la salle, des coups d'œil qui sont... C'est très intéressant de voir ces grands dirigeants arriver avec leurs épais dossiers très inquiets, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu solennel. Quand vous jurez de dire toute la vérité devant une... Il y a quelque chose de très solennel, une commission d'enquête. Et ça n'intéresse pas beaucoup la presse.
C'est ça ma crainte. Ce qui est révélé n'intéresse plus.
Allez-y, poursuivez. On
se désintéresse de ce qui est disponible. C'est le problème des médias, qu'ils soient radio, je ne parle pas de la télévision, il n'y a pas beaucoup de temps d'antenne, ou de la presse écrite. On n'a plus vraiment assez d'intérêt pour des choses qu'il nous faudrait creuser, tout simplement parce qu'elles sont révélées, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles. Donc ce qui est disponible n'offre plus d'intérêt pour une presse qui a besoin de se pousser, de faire des coups aussi.
Comme chaque semaine, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux. Les médias peuvent-ils être neutres et objectifs sur la transition énergétique? Ce matin, dans le secret des sources sur France Culture, Éric Chavroux, je le rappelle, vous êtes chaque semaine notre homme des images et du multimédia dans le secret des sources. Sur ces sujets, EDF, le nucléaire, la transition énergétique, il y a une image récurrente qui revient dans la presse et qui apparaît quasi immédiatement quand on tape ces mots-clés dans les moteurs de recherche sur Internet. C'est l'image, j'allais dire, presque mythique des cheminées de centrales nucléaires. C'est une image porteuse d'une symbolique qui alimente beaucoup aussi l'idée de la forteresse opaque.
Oui, ces silhouettes aussi massives qu'opaques qui sont désormais vraiment ancrées hein, dans l'imaginaire collectif avec, vous savez, cette structure hyperboloïde, si caractéristique, qui est devenue un symbole du nucléaire en France et puis de tous les débats, les combats qui ont eu lieu autour de ce sujet, ces cheminées de refroidissement, vous le disiez, château fort des temps modernes, construction imposante, écrasante, dont le mystère en plus est renforcé très souvent pour le grand public par les fumées blanches qui en sortent, tout simplement de la vapeur d'eau, donc il n'y a aucune crainte de réactivité, de radioactivité. Et ces tours aéro-réfrigérantes, parce que c'est le terme exact, elles sont devenues aussi évidemment une cible pour les soldats de l'anti-nucléaire. Et on se retrouve du coup face à des citadelles, contrairement à l'image de cathédrale qu'en véhiculaient la presse et les autorités au début du nucléaire. Et dans notre esprit, le religieux a finalement définitivement cédé le pas aux militaires, même s'il s'agit d'une construction civile.
Alors, on va s'arrêter à présent, comme toujours avec vous, sur les réseaux sociaux, en nous posant, comme toujours, cette question. Est-ce qu'ils changent l'information sur le sujet? Est-ce qu'ils en déplacent le curseur? La réponse est en partie oui. Et si on revient sur le projet de loi de cette semaine, en raison, c'est aussi, pour le coup, en raison de l'intérêt marqué de Ségolène Royal pour les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'on sait son goût, le goût de l'ancienne candidate à la présidentielle pour le participatif. Et figurez-vous que fin mai, elle a lancé dans ce dossier, ça a pas loupé, elle a lancé cette fois une consultation participative à propos du nom même de la loi. Elle a fait ça sur Twitter via son propre compte et elle s'est adressée à ses près de 200 000 abonnés parce que, a-t-elle dit, beaucoup lui expliquaient que le nom n'était pas clair. Bon. Résultat qu'elle a publié 4 jours plus tard, une sélection de 30 propositions retenues, dont par exemple Désir d'énergie nouvelle, et la ministre de remercier tout le monde pour cette créativité.
Il y avait d'ailleurs un débat participatif qui avait été lancé sur Internet au départ, hein, c'est ça, au début de l'année?
Oui, donc toujours du participatif. Cette fois, c'était début février. Un site baptisé Votre énergie pour la France, avec donc la possibilité pour tous les internautes de laisser son avis. Le problème, figurez-vous, c'est qu'aujourd'hui, en un peu plus de 4 mois, on a récolté 54 avis.
Pas terrible.
Ça veut dire une dizaine par mois, hein, à peu près. C'est pas vraiment une réussite. En revanche, la rubrique initiative, elle sauve un peu l'honneur. On a 77 initiatives qui sont transmises de toute la France avec les transports propres, les énergies renouvelables ou encore la lutte contre les gaspillages. Et puis, il ne faut pas oublier le compte Twitter officiel aussi du débat sur la transition énergétique avec quand même 2700 abonnés et près de 2000 messages, dont un récit assez minutieux de tous les débats avec ce qu'ont dit chacun des interlocuteurs, les interlocuteurs qu'on peut eux-mêmes retrouver sur leur propre compte, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Denis Baupin. Et dernière chose, évidemment, les débats entre citoyens et internautes eux-mêmes, très souvent militants, c'est impossible de synthétiser tout ça, mais j'ai quand même relevé une étude, alors curieusement, tiens, elle est signée IBM et Veolia Environnement, une étude sur tout ce qui s'est publié entre l'été 2012 et l'été dernier à ce sujet. Donc c'est les tweets, les posts, les commentaires et autres articles. Il y a eu au total 180 000 documents. Pour donner une idée, c'est un petit peu plus que la fraude fiscale et c'est environ moitié moins que pour au sujet du mariage gay. Et cette étude, elle estime que finalement, le grand public, c'est pas si impliqué que ça. C'est essentiellement des experts qui se sont exprimés et qu'il y a un effort de pédagogie à faire, notamment de la part des collectivités locales.
Un petit mot là-dessus, Béatrice Mathieu, Claude-Marie Vadrois, Anne-Laure Barral. Est-ce que les réseaux sociaux et les nouveaux médias sont des apporteurs d'idées ou de sujets sur cette question de la transition énergétique ou est-ce qu'à l'inverse, c'est le lieu par excellence de l'expression privilégiée des différents lobbies?
Alors, j'ai deux réponses à faire. C'est non, en ce qui concerne le nucléaire, je ne crois pas à l'efficacité des réseaux sociaux. Par contre, c'est oui en ce qui concerne les énergies renouvelables. D'ailleurs, on vient de le prouver en Bretagne, puisqu'il y a des gens qui s'offrent des éoliennes, qui se regroupent pour construire des éoliennes. Là, il y a un vrai débat qui est intéressant, qu'on voit passer, nous, à Politis. Mais sur le nucléaire, non, puisque nous-mêmes, nous sommes pratiquement dans l'incapacité de donner des informations très fiables, les chiffres que nous évoquions tout à l'heure. Mais sur les énergies renouvelables, oui, je crois beaucoup à ce débat.
Béatrice Mathieu, Anne-Laure Barral, sur ce rôle des réseaux sociaux, ils apportent quelque chose, ils changent quelque chose?
Je voudrais donner un éclairage par rapport au rôle des réseaux sociaux. Je pense que, pour le coup, il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux sur cette question-là par rapport à la presse plus traditionnelle. Et j'ai cette expérience-là dans le magazine, mais aussi d'autres collègues dans d'autres... Quand vous parlez de transition énergétique, quand vous proposez des sujets sur la transition énergétique, on vous dit « c'est barbant ».
Normal.
Et je reste poli.
Ça dépend. Après, sur les réseaux sociaux, il y a des mises en avant de projets locaux, le parc éolien participatif et citoyen. C'est intéressant, ça remonte par ce biais-là, parce que c'est plein de petites initiatives locales. Après, sur le nucléaire, moi, je trouve que c'est juste un déversoir à avis clivant des pour et des contre, hein, et avec souvent pas mal de bêtises dites sur on mélange électricité et énergie. Hein. Mais je trouve que c'est ça l'intérêt de cette loi, hein, c'est de faire monter justement toutes ces initiatives locales, ou en tout cas d'essayer de les faciliter. Et c'est une autre vision que ce que le nucléaire avait fait de l'énergie en France, c'est-à-dire un débat qui vient d'en haut.
Oui, et très jacobin, hein, c'est le principe du nucléaire en France. Claude-Marie Vadrault, Politis, Béatrice Mathieu, L'Expansion, Anne-Laure Barral, France Info sont ce matin dans le secret des sources pour s'interroger avec nous sur le traitement médiatique de la transition énergétique. Dans un instant, prise de recul avec l'historienne et politologue Isabelle Vera-Masson, juste après ces quelques paroles anti-nucléaires tirées de l'univers musical si particulier d'Hubert Félix Stéphane.
Alligator, 400 mètres, c'est au croc venimeux et gluant. Je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux griffes d'or et de diamants, je sais que la ciguë est prête, je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront vers de terre.
Hubert Félix Stéphane, Alligator 427. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. On le disait un petit peu tout à l'heure, Isabelle Vera-Masson, la tonalité malgré tout dominante dans les médias cette semaine a été de livrer un verdict relativement positif sur ce projet de loi. On serait presque tenté de dire pour une fois, parce que dans le climat que l'on sait très critique vis-à-vis de l'action gouvernementale de ces derniers mois, ça détonne un petit peu. Ce qui se joue derrière, on a aussi l'impression, c'est tout le rapport des médias aux notions de progrès d'un côté, d'alarmisme et de scepticisme de l'autre. Il y a aussi ça en arrière-plan, hein.
Oui, alors la question de la médiatisation des questions d'environnement est extrêmement intéressante et compliquée. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, quand on le regarde de manière globale, qu'il y a beaucoup de diagnostics alarmistes sur les questions de l'environnement et peut-être pas assez de solutions où les deux sont séparés. Comme s'il était difficile de faire la synthèse. Or, évidemment, on a besoin d'une synthèse entre de faire des liens entre les diagnostics et puis les solutions. Alors, il y a la tendance naturelle de la presse qui est plutôt à montrer ce qui ne marche pas et donc à sembler naïf lorsque la presse semble naïve lorsqu'elle propose des solutions. Elle se demande d'ailleurs si c'est bien son rôle, hein, si c'est pas celui des acteurs d'où le fait d'être souvent ventriloque sur ces questions d'environnement, c'est-à-dire de donner la parole. Moi, ça m'a beaucoup frappé en ce qui concerne la loi présentée par Ségolène Royal. On a donné la parole aux politiques et les titres de la presse étaient relativement neutres. Donc, on a donné la parole aux experts, aux différents partis. Et en ce moment, c'est très difficile, ils ne sont pas audibles. Hein, c'est-à-dire que les partis politiques sont assez peu présents, parce que vous savez bien, je crois qu'on en a parlé, ils se déchirent, apparemment il y a des problèmes à l'intérieur. Et donc, les avis étaient plutôt positifs, comme s'il y avait eu une plage ouverte aux bonnes nouvelles. Moi, c'est ça qui m'a frappée. Je crois qu'il y a eu de la part de Ségolène Royal, qui est une personnalité, comme on sait, assez particulière, une certaine habileté
politique dans une forme de compromis.
Présenter, avant que la loi ne soit présentée, déjà à discuter avec des leaders d'opinion. Et il me semble important qu'elle ait, elle, qui est dans, le participatif, elle a compris qu'il y avait quelques personnes qui vont prendre position très tôt et qui vont donner le ton dominant. Je pense évidemment à Denis Baupin, mais aussi à quelqu'un comme Arnaud Gossement, qui vont immédiatement, et là c'est le rôle des médias sociaux, donner la tonalité à saisir.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, on a esquissé un peu cette thématique tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce d'envie de sortir du mode alarmiste pour revenir à un mode de progrès, enfin un mode de tonalité sur finalement, oui, il peut y avoir du progrès.
Oui, alors c'est la personnalité de Ségolène Royal qui avait elle aussi donné le ton en disant qu'elle ne voulait pas d'une écologie punitive. Donc elle avait dit dans quel sens il fallait interpréter sa loi, ça c'est quelque chose d'important. Maintenant, l'envie de la part peut-être des médias à un moment donné de donner des bonnes nouvelles, peut-être. Mais je crois aussi qu'il faut, hélas, comme toujours, remettre tout cela en contexte et qu'il y a le poids de la stratégie des écologistes qui interfère de manière très massive, à mon avis, sur les considérations objectives d'évaluation. C'est-à-dire qu'on voit bien, et ça, il nous a fallu un peu de recul pour s'en apercevoir, même si ça apparaît assez rapidement quand même, c'est qu'il semble bien que ceux qui étaient positifs à l'égard de Ségolène Royal étaient ceux qui étaient pour le maintien au gouvernement des écologistes et les autres contre le maintien. Donc on se demande s'il n'y a pas tout simplement des considérations politiques de basse politique chez les écolos dans leur jugement à l'égard de cette loi. Donc on voit bien qu'il y a des questions médiatiques et importantes, on l'a dit, mais également, encore une fois, des questions bassement, entre guillemets, politiques, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait ou pas rester dans le gouvernement. Et on voit bien que c'est ce clivage-là qui l'a emporté dans l'acceptation ou pas de la loi.
Il y a un autre fait marquant, et la sémiologue Mariette Darigan, qui participe régulièrement également au Secret des Sources, a attiré mon attention cette semaine sur ce point-là, c'est le fait que la presse a adopté le mot « transition ». Qui est un mot qui est connoté très positivement. Le mot transition est un mot, contrairement à révolution, qui peut par exemple paraître très choquant aux yeux de certain nombre de personnes. À l'inverse, transition, c'est quelque chose qui va dans un sens assez connoté positivement. Et la presse l'a vraiment adopté à l'unanimité. Du point de vue de la sémiologie, il y a quelque chose d'assez marquant là quand même, non ? Claude-Marie Vadron.
En ce qui concerne Ségolène Royal, il ne faut pas oublier qu'il y a longtemps qu'elle connaît très bien ses dossiers.
Oui, elle part avec un a priori positif.
Ce qui n'est pas le cas de son ex-mari, le président. Moi, je me souviens d'un déjeuner à Madrid en 2005. Je me trouvais à côté de Ségolène Royal. Nous avons parlé que d'écologie, que d'énergie nouvelle, puisque nous étions en Espagne, pendant que celui qui allait devenir président se moquait de nous. Accompagné d'ailleurs par les quelques journalistes politiques dont je n'étais pas, qui étaient autour de nous. Et l'autre aspect des choses, vous parlez de catastrophisme, mais quand vous remontez l'histoire de l'écologie au cours des 40 dernières années, c'est-à-dire celle que j'ai vécue, vous apercevez qu'hélas, on ne progresse que de catastrophe en catastrophe. Et que c'est à l'occasion de ces catastrophes que nous, journalistes, nous parvenons à fournir des chiffres supplémentaires, des éléments supplémentaires.
Béatrice Mathieu, Anne-Laure Barral, sur ces notions, le rapport de la presse à alarmisme, catastrophisme, progrès, adoption du mot transition, tout ça est lié. Hein, donc, Anne-Laure Barral.
Sur les questions environnementales et énergétiques, les enjeux mondiaux, je dirais, ils sont alarmistes. Mais après, les solutions sont locales. Elles sont plutôt positives. Je me souviens juste d'avoir discuté avec des collègues qui font l'environnement depuis beaucoup plus longtemps que moi, me dire avant, il y a 25 ans, on devait se battre dans les rédactions pour laisser passer un sujet ou pour faire passer un sujet sur le réchauffement climatique, sur la désertification. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux intéressent tout le monde et... Moi, je trouve que c'est ça qui tout le monde dans son quotidien. Alors, ça va de trier ses déchets à comment consommer moins d'eau, à comment peut-être payer sa facture moins chère. Ça part de... Mais aujourd'hui, dans la société, on compte plus aussi les collectivités, les entreprises, les citoyens qui se penchent un peu sur ces questions.
Moi, je
Béatrice
trouve
Mathieu
que dans
Dodeline
les...
Moi, je, paraît un peu
je suis un peu moins optimiste que vous sur ça. Je trouve que depuis la crise, Depuis 2008, les sujets environnementaux intéressent moins dans les rédactions.
Parce que l'enjeu financier, etc., a pris le dessus
et parce que la dureté de la crise fait que, vous savez, l'environnement, c'est toujours demain. On se dit, bon, allez, on va continuer. C'est toujours la fuite en avant et le déni. Je pense qu'on n'est pas sorti de ça. Et je trouve qu'au contraire, on est moins intéressé par les sujets environnementaux qu'avant la crise.
Alors ça renvoie à une autre problématique qui a d'ailleurs légèrement soulevé là, à l'instant Claude-Marie Vadron, c'est aussi qui couvre le sujet. Puisqu'on sait que le sujet il peut être couvert par un journaliste politique, c'est possible, un journaliste spécialisé en environnement, un journaliste économique, vous êtes l'incarnation de différents profils d'ailleurs, un journaliste scientifique aussi, pas tout nécessairement le même profil qu'un journaliste environnemental. Dans quelle mesure le profil du journaliste qui couvre l'information va avoir un impact majeur sur la façon dont l'événement est restitué ?
J'en juge par l'histoire, effectivement, il y a une quarantaine d'années, nous étions une poignée de journalistes spécialisés qui se battions effectivement pour obtenir un peu de place sous le ricanement de nos camarades, et pas seulement dans des journaux classiques, mais également dans des journaux de gauche. Je me souviens, à Politique Aujourd'hui, il y avait tous les sujets sérieux, puis un peu à part, il y avait les femmes et l'écologie. C'était à peu près aussi vendeur d'après les rédacteurs en chef. Donc, il y a effectivement qui traite ces questions. Et je crois que ce dont nous avons souffert, si je me place du point de vue de la personne qui voudrait que l'environnement aille mieux, c'est que l'environnement est devenu en grande partie un fait divers. Il est maintenant traité comme un fait divers, un fait de société. Mais ça n'est plus vraiment quelque chose qui pose des questions sur la gestion de la planète, de la France, du territoire ou d'une commune. C'est devenu un fait divers, c'est traité comme un fait divers.
Parce qu'en même temps, il y a un besoin de connaissances économiques, on l'a bien vu. Il faut maîtriser des bilans comptables pour comprendre la transition énergétique. Et en même temps, il faut connaître des débats techniques qui relèvent vraiment de la spécialisation scientifique et environnementale, non ? Béatrice Mathieu et Anne Lorbaral aussi sur ce sujet.
C'est pour nous, journalistes économiques, d'abord un sujet économique. Mais vous le disiez tout à l'heure, ça dépend de la ligne éditoriale du journal. Ça dépend. Donc, quand vous êtes à l'Expansion, vous traitez effectivement la question de la transition énergétique par le biais des questions économiques et des questions de coûts. Évidemment, ça dépend en fait, du support pour lequel vous travaillez.
Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir d'œillères sur... on est journaliste environnement, mais ça peut être une vision assez large du sujet. Le nucléaire peut être abordé à la fois sur les questions qu'est-ce que ça apporte aux effets, à l'effet climatique, qu'est-ce que ça apporte sur le coût de la facture. Donc, faut pas se dire qu'on voit que ça dans le sujet. Après, quand on va traiter du rapport de la commission parlementaire sur le coût du nucléaire, on parle de est-ce que ça coûte plus cher que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, il faut bien se pencher sur la façon dont sont faits les tarifs, même si on se dit journaliste environnement. Et donc, moi, je regarde que la pollution nucléaire quand il y a un accident. On ne peut pas se brimer comme ça.
Parce qu'encore une fois, on peut avoir d'un côté des journalistes environnement, on va dire, dont le profil vient souvent du militantisme aussi. D'ailleurs, ça a pu être reproché à un certain nombre de journalistes environnement. Et puis, de l'autre, des journalistes économiques qui sont uniquement préoccupés par les calculs de coûts. Or, ce n'est pas le seul enjeu, évidemment, sur ce sujet.
Le militantisme, après, il est où ? Il est dans le fait de prendre en compte que dans le nucléaire, il y a un avantage climatique, il y a un avantage économique. On peut être militant. Alors, est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ? Je pense que ce que disait Claude-Marie Vadreau au début est le mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas... l'objectivité sur tous les sujets qui soient, elle n'existe pas. Après, on essaye de faire un travail honnête. Quoi.
Un militant peut être honnête. Je crois que c'est ça. Rebondir sur ce que vous disiez, je ne suis pas certain qu'il faille tout comprendre à chaque fois. Moi, j'avoue qu'au bout de beaucoup d'années, je ne sais pas encore exactement comment fonctionne dans le détail une centrale nucléaire. Je crois que si on sait trop de choses, je crois l'avoir déjà dit à ce micro ici il y a quelques mois ou quelques années, si on comprend 30 choses en tant que journaliste, on l'explique mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, le journaliste, il doit raconter une histoire, qu'il s'agisse de l'histoire d'une centrale ou d'une éolienne. Donc il faut éviter de trop en savoir, parce qu'on explique mal ensuite.
Un mot encore.
Drei Monate nach der Katastrophe von Fukushima hat Bundeskanzlerin Angela Merkel um Unterstützung und Verständnis für ihre Kehrtwende in der Atompolitik geworben.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan
Le discours clé d'Angela Merkel en 2011, trois mois après la catastrophe de Fukushima, annonçant la décision allemande de sortir du nucléaire, Energiewende, le changement énergétique allemand, a évidemment la répartition de la production d'électricité en Allemagne et en France, c'est très différent et il ne s'agit pas de parler de ça ici, mais juste de poser la question suivante, est-ce que les médias regardent suffisamment ce que font les autres pays en matière énergétique et particulièrement nos voisins directs ?
Pas du tout.
Béatrice Mathieu.
Je trouve que la question, la comparaison avec les modèles étrangers est très, très mal faite, que en France, quand on prend un exemple, regardez l'Allemagne, etc.
C'est toujours l'exemple qu'on prend.
C'est toujours l'exemple qu'on prend, mais en même temps, je trouve qu'il est souvent très mal creusé, que tous les problèmes justement liés à l'énergie 22 sont très mal approfondie en France. Et je trouve qu'effectivement, c'est, la comparaison internationale est très mal faite.
Claude-Marie Vadreau.
Oui, notre ethnocentrisme pèse beaucoup sur la manière dont nous considérons les problèmes environnementaux. C'est clair que nous regardons peu ailleurs, qu'il s'agisse de nucléaire ou de bien d'autres choses, en matière d'environnement.
Et Anne-Laure Barral, même diagnostic.
Oui, je pense qu'on se compare beaucoup à l'Allemagne.
Aussi,
mais
façon,
on le fait sur les gaz de schiste aussi. On se compare à l'Allemagne maintenant sur les gaz de schiste.
On se compare à l'Allemagne tout le temps, surtout.
Mais c'est étrange d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on fait le choix de se comparer que pour dire nous, on fait bien de ne pas faire comme eux. Voilà, on fait rarement les sujets sur l'Italie, hein, qui a décidé de sortir
l'Espagne aussi, qui
depuis
a
très longtemps, pour des raisons.
Le solaire, par exemple.
Bien sûr, on a pas lu beaucoup de reportages dans la presse au cours des 10 dernières années sur l'extraordinaire boom des éoliennes et du solaire en Espagne, alors que dans certaines régions autonomes, on aboutit en hiver à entre 30 et 38% de l'électricité utilisée en provenance des éoliennes. Mais ça fâche en France.
Allez, comme toujours dans Le Secret des Sources, on boucle la boucle avec le clin d'œil signé cette semaine Nathalie Lopez. Nathalie s'amuse en imaginant un journal qui voudrait fonctionner de façon autonome à l'énergie renouvelable.
L'heure est à l'écologie. Soyons la première rédaction de France à utiliser de l'énergie renouvelable. Je propose que nous fassions installer une éolienne en face de la radio pour alimenter les studios.
Chef, c'est sympa votre idée, mais on est à Paris, pas à Marseille. Il n'y a pas de Mistral ici. Donc qui dit pas de vent, dit pas d'électricité. Donc pas de journaux, c'est QFD.
Ah oui, bon, j'avais pas pensé à ça. Alors ce que je propose, c'est d'installer des plaques solaires sur le toit.
C'est toujours sympa, chef, mais on est à Paris. Le taux d'ensoleillement est trop faible. Donc qui dit pas de soleil, dit pas d'électricité. Donc pas de journaux, c'est QFD.
Mais alors ce que je propose, c'est une centrale hydraulique. Il y a la Seine, donc là, ça devrait marcher.
Je voudrais pas paraître rabat-joie, mais il y a la Seine, pas la mer. Et je suis pas sûr que de créer un barrage en plein cœur de Paris, ce soit possible, chef. Donc qui dit pas d'eau, dit pas d'électricité. Donc pas de journaux, c'est QFD.
Ah bon, très bien tes remarques, mais tu proposes quoi à la place ?
Le vélo.
Hein ?
T'as 15 kilos à perdre, on te met sur le vélo. Donc qui dit chef pédale, dit électricité. Donc on peut faire des journaux, c'est QFD.
Et moi quand je pars en vacances, on fait quoi ?
Rien.
Rien ?
Rien.
Ah bah alors gardons le nucléaire, ça marche. Et puis des journalistes irradiés, c'est pas très gênant.
C'est le clin d'œil de Nathalie Lopez. Les médias peuvent-ils être neutres et objectifs sur la transition énergétique ? Vous commentez, vous réécoutez, vous téléchargez comme chaque semaine sur franceculture.fr. Béatrice Mathieu, Anne-Laure Barral, Claude-Marie Vadreau, Isabelle Véramasson, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Merci à tous. Et tout à l'heure, dans L'économie en question, Dominique Rousset reviendra également sur ce projet de loi sur la transition énergétique. Dans un instant, le journal d'Anne-Laure Chouin, puis réplique. Ce matin, l'Europe, continent d'immigration. Alain Finkielkraut reçoit Hervé Juvin et Olivier Pastré. Prenez soin de vous.
Pour la première fois, on parle de réduire une part du nucléaire dans notre mix électrique. Ça n'a jamais été envisagé avant. Donc ça, pour un journaliste, c'est intéressant quand même de suivre cette évolution historique du modèle énergétique français, électrique français.
Est-ce qu'on peut faire confiance à EDF pour fournir les bons chiffres ? Je crois qu'on vit dans l'affaire du nucléaire, notamment sous la dictature des chiffres. On ne nous balance que des chiffres que nous sommes incapables de vérifier sérieusement.
Quand on vous parle de transition énergétique, quand vous proposez des sujets sur la transition énergétique, on vous dit « c'est barbant ». Et je reste polie.